Les colloques du Collège de France.
Nous allons voir cet après-midi à quel point le mot d'adaptation est précisément inadapté dans la langue française pour désigner les réappropriations, les enrichissements, voire les réinventions de ce modèle, entre guillemets, qu'a pu constituer l'histoire mondiale de la France. Et nous allons engager cette discussion sur ces différentes manières d'adapter ou de ne pas adapter cet ouvrage, en compagnie de trois historiens dont les travaux ouvrent des perspectives transnationales et comparatives d'une remarquable fécondité. À ma droite, Carlotta Sorba, qui est professeure à l'Institut universitaire de Florence et à l'Université de Padoue. Elle est spécialiste de l'histoire culturelle de l'Italie et plus largement de l'Europe au XIXe siècle. Ses recherches se sont focalisées sur les industries culturelles, comme le théâtre ou la musique, ainsi que sur la culture matérielle qui accompagne les mouvements politiques, les émeutes, les révolutions de l'Europe au XIXe. Elle a également travaillé sur l'actrice Adélaïde Ristori, l'une des premières célébrités mondiales. Et donc ses recherches récentes ont notamment donné lieu à la parution de Politics and Sentiments in Risorgimento Italy, Melodrama and the Nation, publié en 2021. Et la même année, elle publie La svolta culturale, Como è cambiata la pratica storica africa, chez La Terza, donc en 2021. À mon extrême gauche, Andreas Farmeyer, qui est professeur d'histoire à la Johann Wolfgang Goethe Universität de Francfort, spécialiste du XIXe siècle, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Ses travaux portent sur l'histoire des migrations et du contrôle des frontières, mais aussi sur l'histoire des villes britanniques et allemandes, ainsi que sur l'histoire politique et culturelle des monarchies européennes, comme en témoignent ses ouvrages « Citizenship, the rise and fall of a modern concept » en 2007, ainsi que « Revolutionen und Reformen Europa », donc dans la première moitié du XIXe siècle. Enfin, à ma gauche, Angelos Dalakanis, qui est lui ancien membre de l'École française d'Athènes, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, et également directeur, co-directeur de la revue Diaspora. Il consacre ses recherches à l'histoire des migrations, du travail et de la diaspora grecque en Méditerranée orientale au XIXe et au XXe siècle. Il est notamment l'auteur de The Greek Exodus from Egypt, Diaspora Politics and Immigration, donc dans la première moitié du XXe siècle, jusqu'aux années 60. Et il a publié également en 2024, en compagnie de Mercedes Volé, Monde rêvé, monde collectionné, la Méditerranée orientale d'Antonis Benakis, publié aux éditions de l'École française d'Athènes. Alors, au terme de cette brève présentation, nous pouvons mesurer la complémentarité de vos approches respectives, histoire culturelle, histoire sociale et politique, histoire des migrations, tout en pressentant que votre intérêt partagé pour le XIXe siècle tient pour partie à ce que ce dernier siècle, ce moment, constitue une séquence privilégiée où s'élabore précisément la mise en récit du passé national. Donc ma première question portera sur les modalités d'adaptation, ou je le disais, de non-adaptation de ce modèle français, puisqu'on va essayer de discuter de, au fond, ces trois entreprises éditoriales et intellectuelles qui ont des orientations sensiblement distinctes. Et nous commencerons par vous, Carlotta, puisque vous avez contribué, c'est votre particularité, vous n'êtes pas directrice de ce volume, mais contributrice, contrairement à nos deux autres collègues. Vous avez contribué à cet ouvrage collectif, dont la particularité, l'histoire mondiale de l'Italie, sa particularité a été d'être lancé extrêmement rapidement, antérieurement à la parution de l'Histoire mondiale de la France en 2017. Et donc, évidemment, je me demande, et nous nous demandons, comment vous avez vécu en tant que contributrice la préparation de cet ouvrage, dont la forme semble très proche, vous pouvez le voir à l'écran, semble très proche de l'Histoire mondiale de la France, et en même temps, dont vous n'avez pas eu la possibilité de le consulter, en réalité, avant de terminer votre livre en italien.
Merci. Merci Pierre, merci à tous les organisateurs pour cette belle occasion de discussion et de réflexion sur l'histoire mondiale des nations. Alors, Storia mondiale dell'Italia, vous voyez là en première ligne le volume. Je ne peux pas parler des coulisses comme parce que, comme Pierre disait, j'ai été simplement autrice dans un texte. Je l'ai fait avec enthousiasme et en croyant beaucoup à l'initiative. Alors, j'essaie de, en ce bref temps qu'on a, de voir trois thèmes, disons, la genèse de l'ouvrage, similitudes et différences par rapport à l'ouvrage français et réception. Hein. Alors, très rapidement, après je serai assez rapide, puis on peut peut-être retourner sur des choses. Alors, le cas italien est particulier parce que l'exportation, l'adaptation du modèle français a été quasi immédiate. C'est-à-dire que l'ouvrage italien est sorti à décembre 2017. Donc, je crois que le français était au début. Janvier 2017, donc vraiment moins d'un an après la version française, et donc a été réalisé dans des délais vraiment très courts, en quelques mois seulement. Pour expliquer ça, il faut dire qu'un rôle clé a été joué par l'éditeur, la Terza, qui avait déjà lancé dans le passé beaucoup des autres, disons, projets éditoriaux collectifs entre France et Italie. Je vais citer simplement la traduction, par exemple, de l'histoire de la vie privée, Ariès Luby, mais surtout, en 1990, la publication des histoires des femmes en Occident, Ariès Luby, que je tiens à souligner, est parue avant en Italie qu'en France. Donc, c'était un projet de la Terza, l'éditeur la Terza. Alors, cette rapidité, disons, d'exécution a fait que l'ouvrage reprend presque à la lettre, si vous voulez, la structure éditoriale de l'ouvrage française. Donc, il y a 170 textes, dates, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, 2015, je crois. Mais aussi la conception graphique est assez vraiment similaire, très très proche, et surtout l'objectif clé, c'est-à-dire jeter un pont entre le savoir académique et critique et le grand public à travers un travail important sur, qu'on a demandé aux auteurs, aux autrices, sur l'écriture, la narration, la lisibilité. Tout ça sous la direction, je veux le dire parce que, de la direction d'Andrea Giardina, un grand expert du monde ancien, et de Rome, et trois co-rédacteurs par les différentes chronologies, c'est-à-dire Amedeo Feniello, Maria Pia Donato et Manuel Betta. Alors, un autre grand élément de similitude parfaite en quelque sorte, était la forte ambition civique qui était derrière l'ouvrage, et des motivations politiques qui sont claires déjà dans le choix des deux épisodes qui sont le début et la fin du livre. C'est-à-dire épisodes qui font clairement référence à l'Italie en tant que terre de liens et d'échanges pendant toute son histoire. Donc le premier épisode, c'est lié à un homme préhistorique émergeant des glaces alpines, Donc les Alpes comme passage, pas seulement comme barrière. Et la fin, c'est l'île de Lampedusa aujourd'hui. Alors, beaucoup de similitudes, mais aussi des différences, des fortes différences, avant tout parce que, comme vous pouvez bien l'imaginer, les problèmes et les enjeux de ce qu'on peut appeler le roman national italien sont différents. Donc, le contexte est très différent. Je cite seulement très rapidement quelque chose, c'est-à-dire une histoire nationale qui est très brève, 160 années, sur l'ensemble de la période considérée. Un ancrage très profond dans des grandes entités supranationales, telles que l'Empire romain, pour la période ancienne, mais pendant toute l'histoire, l'Église catholique. Encore, notre enjeu important, l'importance du pluriel Italie. Donc, une sorte d'identité multiple, toujours flexible, qui est présente dès les débuts de l'histoire et qui, en quelque sorte, fait déjà partie du roman national italien. Les différents peuples italiques, leur coexistence, mais aussi leurs forts conflits internes. Alors, pour terminer ce point, bien que vraiment rapidement, les cas italiens montrent, selon moi, le bon potentiel d'exportabilité du, disons, modèle, c'est-à-dire le fait qu'il peut vraiment s'adapter à des contextes même très différents, comme sûrement l'Italie. Mais sur la côté réception, je veux dire quelque chose, parce que là, vraiment, l'accueil a été très différent. Disons, pas de battage médiatique notable, et surtout, aucune polémique, ni prise de position fortement hostile, comme on a bien entendu ce matin, s'est passé en France. Il y a eu nombreuses présentations, mais certainement l'ouvrage n'a pas suscité un débat public d'un quelque envergure. Au niveau des ventes non plus, c'était pas un échec, c'était un succès éditorial, mais rien de comparable en termes numériques, en termes quantitatifs avec la France. Alors, comment interpréter tout cela ? En premier lieu, différence dans le marché éditorial. Et donc, ça, c'est évident. L'ampleur du public moyen est différente en Italie qu'en France. Mais aussi, le fonctionnement du débat public et le rôle qui peut jouer dans le débat public, l'histoire, l'historiographie, c'est assez différent par rapport à la France. Mais il y a aussi des autres thèmes, des autres éléments que je vais considérer pour conclure mon intervention. Alors, premier point, comme je disais au début, une plus grande familiarité avec une idée plurielle et flexible de l'identité italienne. La perspective de l'Italie comme terre des connexions et d'échanges, et même produite par ces connexions, fait en quelque sorte partie déjà du roman national classique et n'a pas été perçue en ce moment, donc il y a aussi une question de perception, hein, en ce moment spécifique n'était pas perçue comme politiquement problématique. En effet, il y avait des nouveautés importantes, mais ils n'ont pas été tellement soulignés. Et aussi le fait que la pertinence de la perspective mondiale, par exemple, pendant toute l'histoire moderne, était vraiment difficile à mettre en discussion pour l'histoire italienne. Donc, on ne peut pas penser et raconter l'histoire moderne italienne sans l'ancrer dans un monde plus ample. Mais il y a eu aussi un dernier élément important avec lequel je vais conclure, c'est-à-dire un problème de timing politique. Si l'on imagine que cet ouvrage paraisse aujourd'hui, après près de 4 ans de gouvernement de droite et d'extrême droite, je crois que nous nous trouverions probablement dans une situation différente. Nous l'avons assez clairement constaté ces derniers mois avec la publication des nouvelles directives ministérielles sur le programme scolaire à tous les niveaux. Ces directives, qui ont donné lieu à un débat assez large, mais apparemment sans grand résultat, un débat auquel ont participé toutes les associations d'historiennes. Ces directives ont conduit à quelque chose qui était franchement inimaginable en 2017, c'est-à-dire un retour très marqué vers une perspective nationale identitaire très classique, en réaction explicite et déclarée dans les directives, contre une histoire mondialisée et multiculturelle. Et la proposition pour les programmes scolaires d'un retour en force à l'étude de la grandeur nationale, des mythes de Risorgimento, par exemple, et à la lecture de livres comme le livre Cœur dans les écoles, c'est-à-dire le livre avec toute la rhétorique nationale du 19e siècle. Alors, on peut dire que la réponse politique est arrivée 10 ans plus tard.
Merci beaucoup, Carlotta. Alors, Andreas Farmeyer, vous avez, pour votre part, dirigé l'Histoire mondiale de l'Allemagne, publié en 2020, un volume qui se singularise dès la couverture que vous pouvez voir à l'écran avec la célèbre coccinelle, mais aussi par l'usage du concept d'histoire globale que vous substituez d'emblée à l'histoire mondiale. Et d'autre part, votre entreprise éditoriale a une autre spécificité, c'est que l'initiative vient d'un éditeur et non pas de l'université, contrairement à l'adaptation italienne.
First of all, I have to make my apologies for answering in English, which is embarrassing in the Collège de France, I know, but it would be even more embarrassing to speak bad French. Indeed, the German copy of the model was an editorial idea, more specifically of Stefan von der Laar, who was the commissioning editor at Beck for Ancient History at the time. And later he told me that each year, every commissioning editor gets to propose something courageous, shall we say. From the editorial point of view, the courageous question was, could one get so many people to collaborate in a fairly rigid format, in a way that would produce the desired diversity of points of view? When we discussed whether this was possible, we were both optimistic, and the head of history at Beck was less optimistic that this would work on a practical level, which it turned out to do. But conceptually, there were a few points we discussed. Some of them related to elements of the presentation. For instance, we decided against having world maps with marked places where our stories were set. This also has to do with the choice of not using Weltgeschichte, but using Globalgeschichte, so as not to sort of retread the well-trodden paths of emphatic imperial history of Germany. And the second more important conceptual problem was to decide how to deal with the fact that if you obviously embrace a long historical perspective, then you'll be treating times that are before Germany in any real sense. But you will also, in the German case, have perhaps more problems of definition as to which areas you include and you don't include in a global history of connections between German or lands that were at one time German and maybe weren't before and weren't after. We resolved this by including a number of chapters on the evolution of frontiers with Bohemia, with Alsace, with Austria, and with Burgundy, and inserting them throughout the kind of historical narrative. The second question we grappled with was how to include what we thought was a very marked aspect of German history, namely the exploitation of violence and the role of violence in the story we would have to tell, which would somehow, and I'm not sure whether we reached a satisfactory conclusion or a satisfactory approach to this, would somehow be submerged in so many different articles. So what we decided to do was to place this narrative strand early on, the second article being dedicated to one of the first archaeological evidences of a massacre, which happened to take place in Germany near Thalheim. The third point I'd like to make at this stage is perhaps something that followed from this particular editor and the particular editorial history with Beck, which has to do with the fact that Beck also adopted another German model very successfully, perhaps very extensively as well, the Lüde Memoir, in a collection of Deutsche Erinnerungsorte, which was then followed by Erinnerungsorte of this, that, and the other, and which was then adopted by other German publishers. And I found it interesting that in many of the early chapters of the Histoire Mondiale de la France, there is actually there are references to the approach in the Deutsche Erinnerungsorte, even though the bibliographies are very short. But this was a model we didn't want to copy, to tell the story of the mutations of the perceptions of the episodes we were dealing with. So we tried to get the participants to do more closely to describing one significant episode that said something more general. This harks back to the discussion of case studies this morning, sort of along the Anglo-American line of a case study that says something more general about the story it kind of hints at. And I think that's all I'd like to say at this stage. Thank you.
Merci, Andreas. Alors, Angelo, c'est à vous. Vous occupez une place un peu particulière en ce début d'après-midi, puisque vous êtes celui qui avait, d'une certaine manière, le plus de distance, en tout cas celui qui a les mains dans le cambouis, puisque vous êtes l'un des coordinateurs de l'histoire mondiale de la Grèce, qui est en cours de préparation, en cours de rédaction. Et cette histoire mondiale de la Grèce se distingue d'ores et déjà de son modèle français, en ce qu'elle comporte au seuil de l'ouvrage, juste après l'introduction générale, une série de contributions réflexives. Vous y tenez beaucoup, des contributions réflexives qui ont pour vocation d'inviter les lectrices, les lecteurs, à, d'une manière assez générale, à interroger la Grèce comme catégorie de l'entendement historique, interroger les frontières géographiques, les bornes chronologiques de cette histoire grecque, les concepts qui structurent cette histoire.
Merci beaucoup, et Pierre, et merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Et, en effet, l'histoire mondiale de la Grèce s'inspire évidemment de l'histoire mondiale de la France, mais n'en est pas une adaptation mécanique. Tout d'abord, je voudrais rappeler que, comme l'a dit Pierre, que c'est un projet collectif en cours de préparation. Et l'idée est née à l'École française d'Athènes, qui nous accompagne depuis le début. Mais les choix scientifiques relèvent d'un comité de 8 historiens et historiennes couvrant l'ensemble des périodes. Véronique Chankovski, Kostas Vlasopoulos pour la période antique, Gilles Griveaux, Tonia Kusopoulou pour l'époque médiévale, Marinos Arianis pour l'époque moderne, Tassos Anastasiadis, Effie Gazi et moi-même pour la période contemporaine, pour les 19e et 20e siècles. Et cette dimension collective a beaucoup compté dans nos discussions. Nous sommes effectivement partis d'une démarche similaire de celle de l'histoire mondiale de la France, c'est-à-dire de centrer le regard national, replacer l'histoire d'un pays dans des dynamiques beaucoup plus larges. Nous avons aussi regardé de près ce qui a été fait en Italie et ce qui a été fait en Espagne. Mais très vite, le cas grec nous a posé un problème particulier. parce que la Grèce contemporaine, est un État créé en 1830 au sein même des frontières beaucoup plus restreintes que celles d'aujourd'hui. Et pourtant, elle possède un capital symbolique exceptionnel hérité de l'Antiquité. Le mot grec, Grèce, renvoie à quelque chose de beaucoup plus vaste que cet État. Elle renvoie à l'Antiquité, à Byzance, aux diasporas marchandes, à tout un imaginaire occidental, à des cultures politiques, des références artistiques, intellectuelles qui dépassent largement les frontières du pays. La question est donc arrivée très vite sur la table. De quelle Grèce parle-t-on ? Et par quelle Grèce on doit commencer ? Si on commençait en 1830, avec la création de l'État, on laisserait de côté l'héritage antique qui a pourtant joué un rôle déterminant dans la construction de l'État. Commencer avec la chute de Constantinople en 1204 ou en 1453 reviendrait à adopter implicitement le récit d'une nation grecque éternelle survivant à travers les siècles avant de retrouver son indépendance. Nous avons donc choisi de commencer par l'Antiquité, par les cadres géographiques et humains dans lesquels émergent progressivement les notions d'hellénisme, de la Grèce, de la grécité, sans présupposer, sans introduire l'idée d'une continuité ininterrompue du peuple grec jusqu'à nos jours. Et c'est peut-être là que notre projet s'éloigne le plus du modèle français, parce que notre objectif est de mettre en discussion la catégorie même des Grèces. À travers les différentes périodes, nous cherchons à observer comment les références spatiales, politiques et culturelles associées au monde grec se transforment, se déplacent et se redéfinissent au contact du reste du monde. Autrement dit, il ne s'agit pas de raconter la longue continuité d'une nation, mais l'histoire mondiale d'une idée, d'une catégorie historique qui est sans cesse redéfinie. Et alors, la question devient beaucoup plus concrète, comme l'a dit aussi Pierre, comment raconter collectivement cette histoire sans retomber dans une forme de téléologie? Et notre réponse a été d'agir à la fois sur la structure du volume et sur ses outils de lecture. D'abord, nous avons opté pour un équilibre en termes de nombre de chapitres entre les différentes périodes, entre 40 et 50 chapitres par période. Et après l'introduction, nous avons intégré plusieurs textes transversaux qui proposent des clés de lecture autour des notions dont les significations changent profondément selon les périodes. Et ce sont quatre grands ensembles qui organisent cette réflexion. D'abord, la question des identités, à travers les catégories des Grecs, des Hellènes, des Roms, grecs orthodoxes, mais aussi les notions d'hellénisme, de néo-hellénisme. Ensuite, les empires, l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, qui constituent des cadres politiques essentiels pour comprendre les populations concernées. Par la suite, vient la question des espaces autour des relations avec la Grèce, la question des frontières, la mer, les diasporas grecques. Et enfin, un dernier axe est la place singulière qui occupe... le dernier axe porte sur les perceptions, notamment les rapports entre Orient et Occident, et la place de la Grèce antique dans les imaginaires européens et mondiaux. L'objectif de ces textes est de montrer comment ces catégories ont constamment été redéfinies au fil du temps Et c'est précisément dans cette historicisation permanente des notions même de Grèce et de Grec qui réside, me semble-t-il, une des principales spécificités de ce projet.
Merci, Angelos. Alors, à vous entendre tous les trois, il apparaît avec évidence que chaque adaptation constitue en fait non seulement une réappropriation, mais une réinvention qui se nourrit des historiographies dites nationales et qui s'en trouve en retour enrichie. Alors, Carlota, est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les outils méthodologiques, notamment, que les historiens et les historiennes en Italie ont mobilisé pour écrire cette histoire mondiale? Parce qu'on songe, du point de vue français, au renouvellement de la microstoria ou au retour en grâce de la biographie dans l'historiographie italienne. Mais plus généralement, on imagine qu'il y a plusieurs courants historiographiques dont vous vous êtes inspiré.
Oui, je crois, en entendant aussi Andreas parler, que vraiment aussi tous ces différentes histoires mondiales se sont un peu nourries aussi des expériences précédentes, non? Et donc c'est une réflexion qui avance en quelque sorte, donc qui a une déclinaison internationale très forte. Alors, pour parler de retourner à la storia mondiale de l'Italia, il faut dire que vraiment le groupe des auteurs était un groupe vraiment fortement ancré dans l'historiographie internationale. Ça, c'est, je crois, important à souligner. C'est-à-dire, les éditeurs même sont italiennes, mais pas tous travaillent en Italie. Et dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas italiens, plusieurs sont français d'ailleurs, et, ou italiens qui enseignent à l'étranger. Donc, une équipe, comme disais, fortement ancrée dans le débat historiographique international. Cela fait que, disons, l'ouverture à la perspective mondiale a été accueillie non seulement favorablement, mais presque comme une évidence. C'est-à-dire que dans l'historiographie italienne, je crois, il existe des traditions et des approches différentes par rapport à différentes chronologies, mais cette présence forte de l'histoire globale, au moins dans les dernières 20 années, est vraiment importante. Plus important peut-être sur l'époque moderne et pour l'âge des révolutions, où vraiment aujourd'hui la perspective transnationale et mondiale est bien présente, presque indissociable du travail, de la recherche, un peu moins sur l'époque strictement contemporaine. Mais là, vraiment, comme tu disais, ils ont joué plusieurs suggestions. Certainement, la biographie, il y a beaucoup d'essais que se concentrent sur des personnages, des acteurs, mais aussi la micro-histoire, certainement, mais toujours avec cette global history très, très présente. Et d'ailleurs, nous savons que certains des noms les plus connus, si vous voulez, de la global modern history sont italiens. Giorgio Riello, Christian De Vito, Francesca Trivellato, Luca Mola, Giuseppe Marcocci ou Alessandro Stanziani qui était ici ce matin. Donc il y a peut-être cette, comme je disais au début, cette difficulté à lire l'Italie, surtout dans la modernité, sinon dans une perspective mondiale. Et donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple, il existe aujourd'hui en Italie au moins 3 écoles doctorales qui sont spécialisées dans l'histoire mondiale, Turin, Naples et Bologne. Et en plus, il y a UI, où j'enseigne, où cette approche est largement encouragée. Alors, comment ce regard mondiale mondialisée a-t-il mis en œuvre dans l'ouvrage dirigé par Giardina? Alors, le résultat semble un peu labyrinthique. On a dit ce matin, quelqu'un a dit kaléidoscopique, et ça, c'est un peu typique de ce type d'ouvrage. Mais il y a une logique très forte, je crois. Et le fil conducteur consiste à présenter la péninsule italienne comme un lieu traversé par une hybridation constante de populations, de cultures, de religions, de langues, de modes de vie. Et donc l'identité italienne comme le produit de cette mixité, d'une italianité en perpétuel mouvement, et en perpétuel mouvement avec toujours dans ce processus de connexion et interconnexion. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que dans le livre, il y a une présence assez importante de l'histoire culturelle. Des nombreux essais sont consacrés, par exemple, à la projection mondiale de produits culturels spécifiques, soit de l'Italie vers le monde, soit du monde vers l'Italie. Donc, je ne sais pas, Così fan tutte et Mozart qui fait un opéra italien à Vienne, ou la Dolce Vita, ou des produits culturels de ce type. Mais aussi l'importance de l'exportation de produits politiques, et donc le fascisme et le berlusconisme en tête. Donc il y a deux essais qui sont dédiés à cette perspective. Alors, à la distance, on pourrait peut-être dire qu'il aurait été possible d'exploiter davantage ces récits interconnectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on pourrait peut-être montrer mieux, mais vraiment là, la rapidité de l'exécution a été incroyable, hein, 4-5 mois. Pour donner l'essai. Donc, je disais, montrer mieux comment la mobilité, les échanges doivent être considérés comme des éléments constitutifs et déterminants des différents processus. Je fais référence au texte que j'ai écrit. Le texte était Nabucco, donc l'opéra de Verdi, à New York. Et alors, j'ai cherché à montrer non seulement comment, au milieu du XIXe siècle, l'opéra italienne était déjà l'un des divertissements les plus importants de la société du spectacle américain, mais aussi comment le flux transatlantique des troupes et des singers, des chanteuses, excusez-moi, est devenu l'un des piliers qui font fonctionner le système de l'opéra italienne. Donc, l'interconnexion nous permet de comprendre mieux aussi qu'est-ce qui se passe à Rome et à Milan, pas seulement à New York. Un autre élément qui peut-être n'est pas qui ressort davantage à la distance, c'est une présence plus marquée dans l'ouvrage de l'Europe et des Amériques par rapport à l'Asie et l'Afrique. Ça, je crois, reflète l'état des études en Italie, je crois. Même si quelques progrès ont été réalisés dans ces dernières années, quand même, moi, au lieu de faire Nabucco à New York, j'aurais pu faire Aïda au Caire, hein, mais je ne l'ai pas fait.
Merci, Carlotta. Alors, Andreas, il semble bien loin le temps de la théorie du Sonderweg, hein, qui supposait une Allemagne close sur elle-même, totalement déviante par rapport à ses voisins européens. Et en lisant votre histoire mondiale de l'Allemagne, on se dit qu'elle est l'héritière d'une longue tradition d'histoire transnationale allemande. Et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les éventuelles spécificités de cette approche allemande.
I think, as you said, in the position in 2017, Germany was roughly 10 years after the runaway bestseller of Jürgen Osterhammer's Verwandlung der Welt as a global history of the 19th century, which was, I think, a surprise both to the publisher and to the author, just how much it touched on public interest. In that sense, I think the doors had been opened to a new approach of connectedness of German history. And I think in historiography, there had been for quite a while the tension between the idea that German history was special, that there was a Sonderweg in a kind of longue durée perspective on the one hand, and on the other hand, that the problems of the specific German historical experience could perhaps be mitigated if German history were inserted in a broader narrative. So I think in a political sense, the resonance is slightly ambivalent of a global German history. But I think that explains a particular penchant, along with peculiarities of German funding structures, for research of a great enthusiasm for first European history, then history of the West, and then global history. However, what the project then specifically revealed is that this approach had a few blind spots, I think. It turns out, I think if you look at the volume, and if you look at the volume from a distance of a couple of years, even more so, it was much easier to find articles on outgoing influences from Germany elsewhere than incoming. There was also a difficulty in finding articles that deal with sort of odd commodity histories. Even Meissen porcelain we couldn't find. And one of the standout articles is the one about the hamburger, how a meat patty becomes a kind of global icon and how it circulates and suddenly gets this tie to Hamburg. So I think these were links to historiographical trends. One thing that emerged, I think also from the relatively limited public debate, was that there was still an asymmetry dealing with the contemporary period when it comes to East and West Germany. We'd kind of discussed this and tried to not mark articles for the period between 45 and 89 as specifically Eastern or Western, but tried to encourage people to cover the phenomenon they wrote on in such a way that it would cover both experiences. But that didn't seem to work very well. And another point is that it's sort of ironic. I mean, the book appeared in 2020, which was obviously the COVID experience, which called a lot of paradigms of increasing interconnectedness into kind of radical question. And so the book kind of appeared contemporaneously to strands of global history interrogating itself about what the paradigms should be in, I think, a parallel issue was of Geschichte und Gesellschaft, which tackled just this very problem.
Merci, Andreas. Angelos, en Grèce, semble avoir prévalu très longtemps la théorie que tu évoquais, la théorie de la continuité et la théorie de l'homogénéité de la nation grecque, depuis l'Antiquité jusqu'à la Grèce moderne, en passant par Byzance, hein, avec cette division tripartite. En même temps, on a l'impression que l'historiographie grecque a été profondément renouvelée à partir notamment de 1974 par différentes vagues historiographiques, avec un moment récemment qui semble avoir été important, le moment du bicentenaire de la Révolution grecque en 2021.
Tout à fait. En fait, ce qui est frappant dans l'historiographie sur la Grèce contemporaine, c'est qu'elle a toujours regardé au-delà des frontières, au-delà des frontières de l'État grec, en travaillant sur les diasporas, sur les migrations, sur les empires, les circulations maritimes, la marine marchande, le philhellénisme. Mais en même temps, elle revient sans cesse à la question nationale. Qu'est-ce que c'est la Grèce et comment la Grèce s'est-elle constituée? Et c'est précisément à partir de cette tension qu'elle est née l'idée d'une histoire mondiale de la Grèce. Cette réalité apparaît d'abord dans les conditions même de production de cet ouvrage, parce que le comité scientifique, comme je l'ai dit, réunit 8 personnes, 2 Français et 6 Grecs. Nous avons, les Grecs, tous effectué une partie importante au moins de notre formation en dehors de la Grèce, en France, au Royaume-Uni, à l'Institut universitaire de Florence, aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, nous travaillons dans plusieurs pays, en Grèce, en France, au Canada, ce qui reflète un profil très international en fait, du milieu historiographique en Grèce. Et la pluralité de nos parcours, la pluralité de personnes en fait, qui constituent le comité scientifique disons, de l'ouvrage, se reflète aussi dans nos choix éditoriaux. Parce que dès le départ, nous avons prévu 3 éditions. On a évoqué la question de la langue tout à l'heure. Dès le départ, nous avons prévu 3 éditions, une édition en grec, une édition en français et une édition en anglais. Et les textes sont rédigés directement dans ces 3 différentes langues. C'est-à-dire que quelqu'un écrit en grec et puis son texte est traduit en anglais et en français. Si quelqu'un écrit en français, son texte est traduit en anglais, en grec, et ainsi de suite. Et ce n'est pas un hasard si le projet est né à l'école française d'Athènes. C'est-à-dire qu'il résulte aussi d'un espace scientifique où les traditions historiographiques grecques et étrangères se croisent depuis longtemps. Parce qu'il faut d'ailleurs rappeler que la francophonie occupe désormais une place de moins en moins importante dans les paysages universitaires grecs et qu'il n'y a pas de traduction en grec de l'histoire mondiale de la France. Alors en Grèce, il y a 2 grandes traditions qui ont longtemps dominé l'historiographie sur la Grèce contemporaine. D'un côté, depuis le 19e siècle jusqu'aux années 1970, il y a des synthèses retraçant le parcours du peuple et de la nation grecque depuis l'Antiquité. Et de l'autre, les histoires politiques, sociales, économiques et diplomatiques de la Grèce contemporaine, depuis 1830, ou encore plus récemment, en intégrant aussi la période ottomane. Et malgré leurs différences, ces approches partagent un même point d'ancrage qui est que la nation constitue leur principal horizon d'interprétation. Notre démarche consiste précisément, comme je l'ai dit, de déplacer ces regards. Il s'agit de montrer comment les notions de Grèce, de grec, d'hellénisme, de grécité se construisent et se redéfinissent à travers des échanges, des circulations, des transferts qui relient constamment cet espace à d'autres mondes. Et l'histoire mondiale de la Grèce est ainsi née d'un constat assez simple. Si la Grèce a souvent été pensée à l'échelle nationale, son histoire s'est toujours écrite dans un espace beaucoup plus vaste. Mais une histoire mondiale de la Grèce doit aussi intégrer les multiples représentations et réfractions de la Grèce à l'échelle mondiale et dans la longue durée historique. Et cela implique de prendre en compte d'abord le poids de l'Antiquité dans les imaginaires mondiaux, l'eurocentrisme, la construction de la Grèce comme berceau de la civilisation. Il y a ensuite cette position un peu inconfortable de la Grèce constamment située entre plusieurs mondes. Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est balkanique? Est-ce que c'est méditerranéen? Oriental, occidental, orthodoxe avant tout. Et cette ambiguïté n'a cessé d'alimenter les discours sur la Grèce depuis le 19e siècle. Et il continue sous d'autres formes jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il y a le processus d'exotisation culturelle dont la Grèce fait très souvent l'objet, depuis les représentations touristiques de masse jusqu'à une Grèce populaire très stéréotypée, incarnée par les figures du Zorba, le Sirtaki, la Moussaka, les îles grecques aux maisons blanches. En somme, une histoire de la Grèce ne peut pas seulement raconter ce que la Grèce a fait dans le monde, ni ce que le monde a fait à la Grèce, mais elle doit aussi s'intéresser à ce que le monde a fait de la Grèce. Voilà.
Merci beaucoup, Angelos. Alors, avant peut-être d'initier le dialogue entre vous et la salle, je vais vous poser une dernière question en vous demandant dans quelle mesure ces différentes histoires mondiales sont aussi en partie des histoires impériales. C'est-à-dire, comment avez-vous intégré l'histoire, on en a parlé un peu ce matin, l'histoire du fait colonial, l'histoire des empires informels, des empires commerciaux, ou encore aussi dans votre cas, puisque vous êtes 19e-iste, Carlotta, comment vous avez pu appréhender aussi la question du modèle impérial antique pour la période contemporaine? Vaste question.
Alors, oui, alors l'une des spécificités du cas italien réside précisément dans, comme on l'a dit, dans la présence forte tout au long de l'histoire des deux dimensions sovranationales importantes, persistantes à des degrés différents, c'est-à-dire l'Empire romain, qui a enduré d'ailleurs beaucoup plus long que l'histoire nationale en stricto senso. L'Empire romain, repris plus tard dans la perspective impériale fasciste, donc il y a aussi cette question sur le contemporain, et d'autre part, bien plus persistante, la présence de l'universalisme chrétien. Donc là, ce n'est pas un empire, mais c'est quand même une réalité universelle. Alors, un de fils conducteurs de l'ouvrage était vraiment, je crois, dans l'idée de Giardina, je crois, la volonté de prendre en compte cet entrelacement et superposition constante tout au long de l'histoire d'éléments plus particulier, plus lié au territoire de la péninsule, élément plus large, universel, et donc l'idée d'essayer de les faire interagir. Et on retrouve cette perspective dans nombreux essais, par exemple pour l'époque ancienne, le rôle que la péninsule joue au sein de l'Empire, qui a un rôle très différent dans les différentes périodes. Ou encore Rome en tant que ville-monde. Donc là, c'est une chose qui apparaît aussi dans des essais qui n'étaient pas seulement dans l'univers Rome, il y a toute une partie de l'œuvre qui s'appelle l'univers Roma, mais aussi cette idée de Rome comme ville-monde apparaît dans des essais sur l'époque moderne, sur le Rinascimento, et comme ça. Et alors, en même temps, il y a tout la question de, comme je disais, de l'universalisme chrétien. Et là, par exemple, aussi pour voir les différentes façons dans lesquelles l'histoire italienne joue avec cet ancrage dans un cadre plus large. Alors, par exemple, il y a pour finir cette trajectoire, il y a un essai de Melloni sur l'élection de Karol Wojtyła, 1978, comme pape au trône pontifical, qui est la fin de la papauté italienne. Donc c'est un événement qui montre comment s'amorce la papauté mondiale, en quelque sorte, et comment, après des siècles, les chevauchements entre l'Italie et la plus haute autorité de l'Église prend fin. Donc, vous voyez cette, cette jeu. Beaucoup moins on parle, et ça je crois c'est dommage, d'empire informel. Surtout parce que, donc, par exemple, début 19e siècle, parce que ce sont des études qui se sont développées plutôt dans les, au moins pour l'Italie, dans les dernières 10 années. Ce que est important plutôt est le thème local-global, les connexions local-global. Là, c'est un autre thème très important pour l'histoire d'Italie, c'est évident. Hein. Je vous fais un exemple sur l'histoire très contemporaine. Il y a une date qui est Slow Food, la création de Slow Food par Carlo Petrini. Donc là, c'est vraiment l'organisation, une organisation, un mouvement pour, comme vous savez, une alimentation bonne, propre, juste, qui est lancée par Petrini à Paris, 1989, et qui est une expérience complètement ancrée dans le territoire. Le siège est un village du Piémonte qui s'appelle Bra, mais qui est d'emblée, qui a tout de suite une dimension véritablement mondiale. Et donc, vous voyez, c'est tout ce type de date, ce type d'épisode, je crois que sont vraiment très intéressants pour comprendre aussi la contemporanéité. Peut-être mieux a été fait, je pensais en écoutant Angelos, sur la migration et la diaspora qui est présente, mais par exemple, il n'y a pas d'essai sur, dans l'après-45. Et ça, c'est drôle, mais en effet, c'est un thème qui est très présent dans l'historiographie italienne, mais il faut dire que cette rapidité d'exécution a fait que peut-être quelque chose a échappé, quelqu'un n'a pas consigné, et donc, la chose dépend aussi de la disponibilité des auteurs. Empire colonial, là, deux mots sur l'empire colonial, parce que là c'est naturellement très, très important, bien présent. Et l'idée c'était de mettre en lumière, dans le même temps, les liens entre la conquête coloniale et la lutte anticoloniale. Alors là, je pensais à la question de point de vue, non, qu'on disait ce matin dans la précédente table ronde. Là, il est intéressant de noter, par exemple, que les textes sur la grande défaite de Adoua, pour l'Italie, la grande défaite coloniale, est confié à un historien éthiopien qui en donne une lecture différente, c'est-à-dire la double lecture. Adoua comme un moment de fête de l'impérialisme italien, mais aussi comme un symbole de la résistance au colonialisme et du panafricanisme de l'autre côté. Donc ça, c'est une possibilité. Et aussi, la question libyenne, la Libye aussi est traitée dans cette même façon, c'est-à-dire la confrontation entre deux personnages, le lion du désert, Omar El Mukhtar, un grand héros de la résistance de la Libye, et le colonel Graziani qui était à la tête des troupes coloniales. Peut-être moins. On retrouve dans l'ouvrage sur l'héritage de la domination coloniale. Et là, c'est plutôt quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans les dernières années, mais peut-être en 2017, ce n'était pas encore si important.
Merci beaucoup, Carlotta. Andreas, du côté allemand, comment avez-vous appréhendé la grande diversité des formes impériales entre le Saint-Empire romain germanique, les empires commerciaux des grandes familles médiévales, le colonialisme évidemment du Reich au 19e et 20e siècle, et puis même l'expansionnisme nazi qui pose question aussi en termes impériaux?
I think from the beginning it was clear that these would be major topics of the volume, that the construction and deconstruction of the medieval empire, also its strategic positioning as on the borders of a West and a less civilized East, then explicit colonialism, obviously, in the 19th century and its deeper roots. We had an article on the short-lived experiment of having a new Brandenburg in West Africa to facilitate Prussian participation in the slave trade, for instance. We also tried to highlight the uses German actors made of other empires for scientific networking, but also for economic pursuits, and the way in which some of these actors then framed ideas of German superiority in Brazil, for example. Obviously, the Nazi period played a large role and also allowed us to have at least a few hints at showing the paradoxes of these imperial schemes when briefly Berlin turns into, under the dictatorship, a sort of refuge for certain currents in, say, Indian anti-colonial movements and the so-called Indian or remnants of an Indian army that get caught up in the Second World War on the German side and what happens to them when they return. I think also in retrospect, what we didn't cover enough was the long colonial legacy for post-war Germany. We tried a bit in the way in which state visits, say, to Africa were staged, but I think that could have been emphasized more strongly. And what we didn't address that explicitly was the debate on whether Nazism is a kind of continuity of German colonial traditions or not. Occasionally the debate pops up in some of the articles, but perhaps that's also a strength and or weakness of the approach, that there's no systematic discussion of these types of historiographical controversies in the individual highlights on very specific episodes.
Merci Andreas. Alors Angelos, même question, on pourrait remonter jusqu'à la thalassocratie athénienne, mais on a l'impression que ces dernières années, ce sont plutôt les études ottomanes qui ont permis d'enrichir notre appréhension de ce rapport de la Grèce à l'Empire.
Oui, tout à fait. Et là, en fait, l'un des apports de l'histoire mondiale de la Grèce est précisément de sortir d'une lecture rétrospective qui ferait les empires des simples étapes sur le chemin de l'État-nation. Et la question des rapports entre nations et empires occupe une place centrale dans notre réflexion, parce que l'historiographie grecque a longtemps été structurée par un récit dans lequel les empires apparaissaient essentiellement comme le décor ou l'obstacle précédant l'avènement de l'État national. Les périodes romaines, byzantines ou ottomanes, qui est bien connue en Grèce comme la turcocratie, en fait, la période de l'occupation turque, ces structures étaient souvent lues à travers ce qui allait leur succéder, c'est-à-dire la naissance de la nation grecque moderne. Nous avons essayé d'adopter une perspective différente. Nous envisageons les empires comme des formations politiques à part entière qui ont durablement façonné les sociétés, les identités, les pratiques administratives, les réseaux économiques et les horizons culturels des populations concernées. Et cette approche conduit également à historiciser la notion même des nations. Et les populations qu'on qualifie aujourd'hui des Grecs ont vécu pendant des siècles dans des ensembles impériaux où les appartenances étaient multiples et souvent définies selon des critères religieux, locaux, linguistiques ou sociaux, beaucoup plus que nationaux. Et l'enjeu est de comprendre comment ces différentes formes d'organisation politique se sont superposées, entremêlées, parfois affrontées, et comment les acteurs ont navigué entre plusieurs formes et cadres d'appartenance. La grande idée constitue à cet égard un exemple particulièrement intéressant et révélateur. Pour rappel, la grande idée, il me réalise grec, est le projet politique qui domine la Grèce à partir de 1840, des années 1840, jusqu'à la chute, jusqu'à la défaite de l'armée grecque en Asie Mineure en 1922. Et c'est un projet politique qui vise à réunir dans un même État toutes les populations grecques de l'Empire ottoman. Et on présente souvent la grande idée comme un projet d'unification nationale. Il y a des collègues qui voient aussi des parallèles avec l'unification nationale italienne. Et c'est vrai que c'est un projet aussi d'unification nationale, mais aussi on peut l'avoir comme une forme d'empire rêvé, comme une forme d'empire imaginé. Parce qu'il y avait l'empire d'Alexandre dans la région, il y a Constantinople, l'héritage byzantin, l'idée d'un espace beaucoup plus vaste que l'État grec lui-même, et l'idée de créer une puissance régionale de caractère impérial en Méditerranée orientale, contrôlée par les Grecs, qui allaient succéder à l'Empire ottoman. Et d'une certaine manière, la grande idée, cette grande idée grecque, montre que le nationalisme grec du XIXe siècle ne s'est pas construit uniquement contre les empires, il a aussi emprunté certains de leurs imaginaires et de leurs logiques. Et dans cette perspective, l'histoire mondiale de la Grèce permet de replacer l'expérience grecque dans une histoire plus large des empires en Méditerranée orientale dans la très longue durée. Elle invite à considérer la nation comme l'une des formes possibles d'organisation politique et d'identification collective qui émerge dans un contexte historique particulier. Alors, une des ambitions du projet était ainsi de ne pas raconter les empires comme l'antichambre de la nation grecque moderne, mais de restituer la coexistence de plusieurs régimes d'appartenance et de plusieurs manières d'habiter le monde.
Merci beaucoup, Angelos.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.